Et vous l'évoquiez à l'instant dans les titres et dans le journal plus tard, dans lequel on reviendra largement sur les tensions entre l'Égypte et Israël. Il va en être question dans la Une en Israël maintenant, avec votre invitée Lise.
Oui, je suis ravie en ce jour de Yom HaTzmaout de recevoir Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie. Bonjour.
Bonjour, Lise. Chag Sameach.
Merci d'être avec nous. Chag Sameach, Avi. Merci d'être merci avec nous sur Radio Judaïka. Alors, Avi Pazner, l'Égypte a menacé de suspendre son traité de paix avec Israël et de renvoyer son ambassadeur. C'est vraiment que des menaces ou c'est quand même à prendre au sérieux?
Écoutez, je ne crois pas qu'on peut suspendre le traité de paix. Et le traité de paix a été signé entre les deux pays. Il est fixe et on ne peut pas suspendre. Mais ce qu'on peut faire, évidemment, ce que l'Égypte pourrait faire, c'est appeler son ambassadeur en consultation, par exemple. Oui, ça est. D'ailleurs, l'Égypte l'a déjà fait plusieurs fois lors de nos relations. Nous avons maintenant plus que 40 ans de relations. Je me rappelle que pendant la première guerre du Liban en 1982, l'Égypte avait rappelé son ambassadeur et pendant 10 ans, on est resté sans ambassadeur égyptien, seulement avec un chargé d'affaires, jusqu'à la signature des accords d'Oslo. Et puis après, encore une fois, c'est arrivé. Donc oui, ça peut arriver parce que l'Égypte n'est pas satisfaite du fait que nous allons entrer à Rafah pour purger Rafah des terroristes du Hamas. L'Égypte nous l'a dit plusieurs fois, mais il y a un intérêt israélien maintenant supérieur. Nous sommes en guerre, nous sommes dans une guerre contre le Hamas. On ne peut pas vaincre le Hamas si nous n'entrons pas dans toutes les parties de Gaza. Nous avons essayé d'expliquer aux Égyptiens que cela n'a rien à faire avec nos relations avec eux, mais ils sont très sensibles au fait qu'ils veulent avoir une frontière commune avec les Palestiniens. D'ailleurs, on se demande pourquoi. Pourquoi c'est tellement important pour eux? Est-ce que c'est peut-être pour laisser passer des armes et des munitions vers le Hamas? Parce qu'on peut se poser la question aussi, comment ça se fait que le Hamas est armé jusqu'aux dents et a de telles réserves d'armes, de missiles, d'explosifs, d'où ça vient? Ça ne peut pas venir d'Israël, ça ne peut pas venir de la mer. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent ici, mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'Israël va continuer son opération à Rafah. Même si l'Égypte rappelle son ambassadeur, eh bien, c'est dommage, nous le regrettons, mais nous continuerons.
Alors justement, l'Égypte est même allée jusqu'à interrompre l'envoi de l'aide humanitaire par le point de passage de Kerem Shalom et elle promet de continuer à retarder cette aide humanitaire jusqu'à ce que les forces israéliennes se retirent du côté palestinien de Rafah. C'est tout de même grave cette menace.
Bon, il faut dire qu'elle est beaucoup plus grave pour les habitants de la bande de Gaza que pour Israël. Nous sommes prêts à faire passer l'aide humanitaire. Là, je ne comprends vraiment pas la menace. La menace, elle est à l'égard des Gazaouis. Vous savez, ce n'est pas avec la joie dans le cœur que nous faisons passer cette aide humanitaire, parce que nous savons que c'est le Hamas qui s'en accapare et qui la distribue ou qui la vend au marché noir. Donc, je crois là que l'Égypte, au lieu de menacer Israël, menace plutôt les habitants de Gaza.
Ce qui est curieux, Avi Pazner, c'est que depuis le début de cette guerre, l'Égypte essaye tout de même de se poser de manière très forte comme médiateur pour ne pas laisser le Qatar uniquement prendre cette place.
Bien, écoutez, je ne sais pas si l'Égypte va vouloir ou pouvoir continuer son œuvre de médiation, parce que si elle réagit comme cela à des mouvements israéliens qui ne sont pas anti-égyptiens, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas contre l'Égypte, au contraire. Si je peux rappeler un peu l'histoire des relations entre nos deux pays, je viendrai 7-8 ans en arrière, lorsque l'Égypte a eu des ennuis avec Daesh et ISIS au Sinaï, où il y a eu un fort terrorisme au Sinaï. Beaucoup de soldats égyptiens ont été tués. Et selon des observateurs bien placés, ils ont fait appel à Israël pour les aider. Donc, nous n'avons pas fait aucun geste non amical envers l'Égypte. Je ne comprends pas vraiment cette position égyptienne. On se demande le pourquoi de cette position. Enfin, c'est à eux de décider, mais il est difficile d'imaginer que si vraiment ils rappellent leur ambassadeur. Et d'ailleurs, je voulais rappeler qu'il y a 2 jours, l'Égypte s'est portée plaignante contre Israël à la Cour internationale de justice aux côtés de l'Afrique du Sud. Si l'Égypte continue avec toutes ses positions anti-israéliennes, je vois mal comment elle peut continuer à faire le médiateur entre nous et le Hamas. Il faudra peut-être trouver quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est là peut-être aussi des problèmes égyptiens internes, je ne sais pas. Nous n'avons aucune mauvaise intention à l'égard de l'Égypte. Notre seule intention, c'est d'essayer d'éliminer le Hamas de la zone de Gaza. C'est là le pourquoi de cette guerre. C'est là notre but, notre objectif, d'arriver à débarrasser la bande de Gaza de cette organisation terroriste. Et pour y arriver, il faudra aller partout. Ce n'est pas dirigé contre l'Égypte, et c'est malheureux que l'Égypte le prenne de ce côté-là.
Justement, Avi Pazner, pour revenir sur Israël et sur Yom HaAtzmaout, vous qui avez vécu tellement de journées de l'indépendance, est-ce que celle d'aujourd'hui, c'est la plus triste, ou par exemple, est-ce qu'après la guerre de Kippour, on était dans le même état en Israël?
Ça me rappelle vraiment le Yom HaAtzmaout après la guerre de Yom Kippour. Oui, oui, c'était exactement la même chose. Exactement la même chose. Le Yom HaAtzmaout, en 1974, a été fêté d'une manière différente. Vous savez, le Yom HaAtzmaut est difficile parce que avant le Yom HaAtzmaut, vous avez la journée commémorative pour tous les Israéliens, les soldats qui sont tombés pour la défense d'Israël. Et c'est toujours très difficile de faire ce pas le soir de la journée de mémoire, de faire ce pas vers Yom HaAtzmaut et de commencer à célébrer. C'est toujours difficile, c'est toujours ça. Il faut savoir comment le faire. Alors, ça a été particulièrement difficile cette fois. Et pour l'instant, je vois que beaucoup de gens restent à la maison et veulent passer le temps avec leur famille. Et ça me rappelle exactement mai 1974, après la guerre de Yom Kippour, quand d'ailleurs nous étions encore en guerre avec la Syrie, pas une grande guerre, mais nous nous battions encore contre les Syriens sur le Golan. Et on avait déjà fait un accord avec l'Égypte, mais pas encore avec la Syrie. Et ça me rappelle, c'est un Yom HaAtzmaut pas comme les autres. Il est très difficile de se réjouir quand on a eu 1500 morts, quand chacun d'entre nous connaît au moins une famille, sinon 2, sinon 3, sinon 10, qui ont perdu des soldats ou qui ont des otages à Gaza. Et on aime s'identifier à ces familles. Et donc, c'est un Yom HaAtzmaut tout particulier, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même important au moins de se rappeler que nous célébrons 76 ans d'indépendance et ça, que cela a un coût très cher et que notre guerre d'indépendance n'est pas encore terminée et ne se terminera que quand nous aurons défait le terrorisme et que nous serons acceptés par tous nos voisins et pas seulement par une partie d'entre eux.
Merci beaucoup, Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie, d'avoir été avec nous ce matin. Rak Sameach quand même pour ce Yom HaAtzmaout, parce qu'on est fiers d'avoir un
merci
pays.
Merci beaucoup. Au revoir, Lise.
Au revoir.
Voilà, c'était donc à la une en Israël. Merci, Avi Pazner, de toujours être avec nous dès qu'il le peut. 8h44, un peu de musique et pas n'importe laquelle.
מן השעות והשניות והקולות באוזניות מן הכוכב על המגדל ומן הרוח לצידו והחבר שעל ידו אשר מרים לו אגודל מן האבים הנפתחים ומכנפי המלאכים ומלילות ללא שינה תמיד עולה המנגינה של העיר והשדות הרחבים וכשהלילה מעליו והשמיים מתחתיו ועל הארץ כוכבים עמוק עמוק בתוך הלב
בתוך הראש המסתובב
מן הקצה מן הפינה
תמיד עולה המנגינה
Hola Mangina, tamid Hola Mangina, ce qui veut dire la mélodie ne cesse de monter. C'est une chanson dédicace, on va dire d'une certaine façon, par notre invité de la question du jour, qui n'est autre que son Excellence l'ambassadrice de l'État d'Israël, Edith Rosenzweig Abou, qu'on va retrouver pas plus tard que tout de suite. Je vous le disais dans la question du jour. Et la question que nous vous posions hier était la suivante. Un petit souci technique. La question du jour était Israël peut-il encore, a-t-il encore, je sais pas, Lise, dites-nous tout. Pardon, comment dites-vous ?
Êtes-vous optimiste sur le futur d'Israël?
Eh ben voilà, bien la question est posée et vous l'avez posée cette question à son Excellence l'ambassadrice de l'État d'Israël, Iris Edith Rosenzweig Abou, qu'on écoute à votre micro, ma chère Lise.
Edith Rosenzweig Abou, bonjour.
Bonjour Lise.
Merci d'être avec nous en cette journée de Yom HaAtzmaout, l'indépendance de l'État d'Israël, Madame l'ambassadrice d'Israël en Belgique. Alors, on a demandé aujourd'hui, comme question du jour à nos auditeurs, est-ce que vous êtes optimiste sur le futur de l'État d'Israël? Et ils ont répondu oui, Madame l'ambassadrice, à leur grande majorité. 63% de oui sur Facebook, 75% de oui sur Insta et 71% de oui sur X. Donc, ils sont en grande majorité optimistes sur le futur de l'État d'Israël. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux?
Absolutely. I understand the difficulty of the time. Every year we hear from the bereaved families how difficult is the switch between Yom HaZikaron and Yom HaAtzmaut. And this year, since it is so big and it is so fresh, all of us are like bereaved families. So it's very hard for all of us. So it's okay to mourn and to cry. And we're in the middle of the war, but there is a difference between that and not being hopeful. And of course I'm optimistic about the future of Israel. Otherwise, where am I going? I just read today that in the last 6 months, there was a record of exits in high tech in comparison to the 6 months before the war. $3.7 billion. So yes, there are implications for the economy. And when I'm thinking about how much high tech was helping during the war, the whole headquarters of the families of the hostages is in a building given to them by a high tech company. So yes, I'm optimistic.
Évidemment que je suis optimiste. Bien sûr que on vit un temps très difficile et chaque année, les familles qui ont perdu un soldat ou quelqu'un nous racontent à quel point c'est difficile de passer de cette douleur de Yom HaZikaron à cette joie de Yom HaAtzmaout. Mais cette année, c'est tellement énorme que nous sommes tous dans cette situation. Et bien sûr, c'est vrai, c'est très dur pour nous tous et on a le droit de faire son deuil et on a le droit de pleurer. Mais bien entendu, ça ne signifie pas qu'on n'est pas optimiste sur le futur de l'État d'Israël. Et d'ailleurs, si je ne l'étais pas, où est-ce que j'irais? C'est bien la simple question. Alors, je regardais par hasard justement les dernières statistiques sur les ventes des sociétés high-tech. Et il y en a eu encore pour 3,7 milliards. Et alors qu'on est en pleine situation de guerre. Et on se rend compte aussi à quel point cette nouvelle technologie, ce secteur high-tech en Israël, il est très important. Même une chose très simple, le quartier général du Forum des familles des otages et des personnes déplacées se trouve dans un immeuble qui a été prêté pour l'occasion par des sociétés de high-tech. Ambassador, would you see the Middle East in peace in, let's say, 50 years? Est-ce que vous verriez le Moyen-Orient en paix, disons, d'ici 50 ans?
I think there is a good chance that the circle of peace can be extended. Look at what happened. Jordan intercepted missiles that were directed to Israel. Basically, Jordanian pilots or soldiers fought for Israel. Who could have imagined this? It's not just Jordan, but in previous rockets that came from the Houthis, it was Saudi Arabia that intercepted some of the rockets. Missiles, in the case of the Houthis. I have no doubt that other countries also see the two axes in the Middle East. Iran, that operates Hezbollah and Hamas and connects in a weird way with Islamic Brotherhood, although these are Shias and these are Sunnis, and the moderate, pragmatic regimes that want to continue their lives, that want normalization. So yes, I think it is possible to extend the circle of peace. But in addition, regarding to the Palestinians, there's a big question of the conclusions the Palestinians will draw from this conflict. Because if you look at the facts, the West Bank does not participate in this war. Why? And there can be a lot of high talk, but at the end of the day, the conclusion must be that engaging in violence with Israel would not be a way to move forward. If we think of the 70s, after the 73 war, of Yom Kippur with Egypt. Egypt was our worst enemy. The trauma of the Yom Kippur War was the first trauma of Israel until the 7 October. And then only 5 years after the Yom Kippur War in 78, Sadat was in Jerusalem. Because the Egyptians drew the conclusion of the Yom Kippur War and also the Israelis. So I hope we will see positive progress coming in from this catastrophe of this year.
Alors oui, je pense qu'on a effectivement de bonnes chances de pouvoir étendre le cercle de la paix. On a vu la Jordanie, par exemple, intercepter des missiles et auparavant même l'Arabie Saoudite contre les Houthis du Yémen notamment. Et je pense qu'il est clair aujourd'hui qu'il y a deux axes au Moyen-Orient. Le premier axe, c'est celui de l'Iran avec le Hezbollah, le Hamas, les frères musulmans et toutes ces associations terroristes chiites ou sunnites. Et de l'autre côté, il y a des gouvernements plus modernes et qui ont une idée plus pragmatique des choses et qui sont peut-être prêts à la normalisation des relations avec Israël. Après, évidemment, il faut se demander qu'est-ce qui va se passer pour les Palestiniens. Est-ce qu'ils vont pouvoir grandir et profiter de ce qui se passe aujourd'hui? On sait que et on constate que les Palestiniens de Judée-Samarie aujourd'hui ne participent pas à cette guerre. La conclusion de toute façon auquel tout le monde devrait arriver, c'est que la violence n'est pas un moyen d'avancer et de faire avancer la cause palestinienne. Et je vais vous prendre un autre exemple. Après la guerre de Kippour en 1973, les Égyptiens étaient parmi nos pires ennemis. C'était vraiment un traumatisme pour l'État d'Israël après cette guerre de Kippour. Le premier vrai traumatisme avant celui du 13 oct du 7 octobre, soyons honnêtes. Et puis, pas moins de à peine 5 ans après, Sadat était à Jérusalem. Et donc, vous voyez que on peut passer d'ennemi à allié finalement en peu de temps. Et il faut bien voir que si les Palestiniens veulent progresser, j'ai confiance que ça aille dans ce même genre de progrès. The international pressure is enormous in this war. Whether it's on talking about genocide, whether it's on Rafah, whether it's not so much on the hostages, but let's say some countries are. Do you feel that Israel is more isolated or less isolated than what it was before? Dans cette guerre, la pression internationale est énorme, que ça soit dans le sens de ne pas faire d'opération à Rafah, que ça soit peut-être aussi dans un certain sens pour la libération des otages avec les pays qui servent de médiateurs, et particulièrement les États-Unis. Est-ce que vous trouvez finalement que Israël est plus isolé ou moins isolé que par le passé?
Well, the question is whether this pressure is something that will remain after the conflict is over or whether it will pass. Right now, there's no denying that Israel is under a lot of pressure. We see it on the streets. We see it in Belgian politics. We see it everywhere. With that said, we take under consideration that we are in a period where we prioritize our survival over our popularity. As the Golda Rabin said, I prefer to receive condemnations rather than condolences. With that said, we can also see that a lot of the pressure is focused on elite groups of society that are called in research the gatekeepers, the ones that are deciding what is shown on the media, the ones that are deciding in campuses. Who's going to enter or not? And once you take surveys, it doesn't look like Israel is denounced or isolated by everyone. So I take some comfort in that. But even if that was not the case, currently, I prefer to be alive rather than popular. After that, we will have to recover some of our image. But first, one needs to survive.
Alors la question, en fait, c'est de savoir si cette pression qu'on ne peut pas nier, qui s'exerce effectivement de la part des États-Unis, de l'Europe, qu'on voit bien aussi, même de la part des hommes politiques belges, la question, c'est de savoir est-ce qu'elle va continuer cette pression après la guerre. Maintenant, je vais vous dire, en ce moment, on a une seule priorité, c'est notre survie. Et donc, forcément, par rapport à notre popularité, on ne peut pas trancher. Et comme le disait Yitzhak Rabin, je préfère recevoir des condamnations plutôt que des condoléances. Et puis, il faut aussi regarder que ces condamnations, elles viennent surtout de certains groupes d'élite, les gens qu'on appelle les gatekeepers, ceux qui choisissent ce qui passe dans les médias ou pas, ceux qui sont sur les campus. Mais quand on fait des sondages, on se rend compte finalement qu'Israël n'est pas si isolé que ça, en tout cas pas de la majorité des populations. Et donc, oui, je dois dire que premièrement, ça me console un peu. Et encore une fois, je vous le dis, je préfère qu'on soit vivant et moins populaire. Il sera toujours temps après de redorer notre blason. Thank you very much, Ambassador, for being with us today. We wish you Chag Sameach, as even if it's hard, it is still Chag, because we are happy to have a state, because in the trauma before, we didn't have one. So that's a big difference, and that's why we do Yom HaAtzmaut with all our heart. Merci beaucoup, Ambassadrice, d'avoir été avec nous. Et c'est vrai que dans les derniers traumatismes, on n'avait pas l'État d'Israël. Donc aujourd'hui, malgré la difficulté qu'on a à se réjouir, on fête de tout notre cœur l'indépendance de l'État d'Israël.
Thank you very much, Liz. Chag Atzmaut Sameach, and Am Yisrael Chai, forever.
Thank you.
C'est ce qu'on appelle une belle conclusion. Am Yisrael Chai, et c'est pas n'importe qui le dit, c'est Son Excellence, l'ambassadrice de l'État d'Israël.